Bien, bien, nous allons reprendre nos travaux avec le professeur Marie-Claire Zimmermann, donc, qui est une figure éminente de l'hispanisme français, qui nous a fait l'honneur déjà de participer à certains de nos colloques. Donc c'est sans doute un professeur qu'on ne présente plus, mais je vais quand même me soumettre au rituel pour rappeler qui est le professeur Zimmermann. Donc professeur émérite de l'Université Paris-Sorbonne, membre correspondant de l'Institut Estudios Catalans de Barcelone, de la Real Academia de Bonnes Lettres de Barcelone, auteur d'une thèse d'état sur la solitude d'Osias March, recherche sur la naissance et le devenir d'un style dans la poésie ibérique, donc se consacre à l'étude de la poésie en langue catalane, 15e, 20e, 21e siècle et en langue castillane, propose le concept de voix poématique et ses implications dans l'écriture des textes, et l'auteur de nombreuses publications, Poesias Españolas Contemporáneas, Paris Masson 1970, Poésie espagnole moderne et contemporaine, Paris Dunod 1995. Je vais citer les ouvrages les plus récents, donc La Catalogne, Paris au PUF en 1998, en collaboration avec Michel Zimmermann. Georges Martin et Marie-Claire Zimmermann pour Osias March 1400-1459, premier poète en langue catalane. Et Madame Zimmermann est l'auteur de 246 articles sur la poésie. Donc, évidemment, ça, j'allais dire, ça laisse songeur et admiratif en même temps.
Tout n'est pas forcément excellent.
Je reconnais bien là votre modestie.
Je le dis très sincèrement.
La modestie des grands.
Algunos, non.
Et aujourd'hui, vous nous proposez donc une communication sur la voix poétique et ses tonalités. Donc, Elianto por Ignacio Sánchez Mejías de Federico García Lorca.
Tout d'abord, merci pour votre présentation et aussi pour tout ce que vous avez fait, disons, pour organiser ce colloque avec de grands amis d'ici, Pilar Martinez-Vasseur, Jean-Marie Lassus, Sonia Fernandez-Hoyos et Marlène Le Breton, qui a été extraordinaire, disons, au moment d'organiser ce colloque. Alors, bien entendu, il y a quelqu'un à qui je rends hommage, mais je le fais très souvent. Et je pense que c'est totalement mérité, c'est Jocelyne Aubé-Borligueux, mon amie Jocelyne, bon, qui a écrit un livre, j'espère que vous l'avez tous lu, un livre vraiment sublime, sur la sublime mélancolie, sur García Lorca. C'est un livre à la fois profond et en même temps transparent. C'est un très gros livre, hein, vraiment très riche, très intense, mais une fois que vous avez commencé, vous ne le quittez plus. Et il y a là, honnêtement, des lectures de García Lorca qui sont prodigieuses. Donc, je t'ai relu, évidemment, Jocelyne. Je vais parler du llanto, mais il y a des pages magnifiques dans ton livre sur le llanto. Donc, merci à toi et merci pour tout ce que tu feras. Je pense que l'Université de Nantes doit vraiment te remercier. Alors voici ce que je vous propose. Le numéro 1032 de la revue Europe, qui a paru en avril 2015, est consacré à Federico García Lorca. Il figure quelques pages que j'avais écrites sur la fin du llanto, seulement la fin, le quatrième temps de ce chant funèbre, de ce que l'on appelle chant funèbre. Je m'étais attachée donc à la relecture d'Alma Ausente. Mais au moment de choisir l'œuvre ou le recueil sur lequel je souhaitais, disons, intervenir ici, je me suis dit qu'il fallait reprendre tout le llanto et par d'autres biais, d'une autre façon que je ne l'avais fait. Alors, disons que je me polarise toujours, je me centre toujours sur le locuteur qui parle dans le texte. Quelqu'un se met à parler dans une chambre, dit Claude Esteban. Ce que j'appelle ordinairement la voix poématique, que j'appellerai ici plus simplement la voix poétique. Je m'interrogerai sur son identité, sur ses rythmes, sur la construction progressive de cette voix qui évolue, disons, au cours des quatre temps dont se compose le llanto. La corrida y la muerte, donc, tout d'abord, 52 vers. La sangre derramada, 93 vers. Cuerpo presente, 49 vers, et enfin Alma Ausente, 25 vers. Alors je vais mettre en valeur, je vais essayer de mettre en valeur le signifiant sonore, bien sûr, porteur de sens. Donc je m'attacherai au vers, ce qui doit être notre passion. Il ne faut pas parler de versification de manière sèche et abrupte. C'est notre chair, c'est notre vie, notre rythme de vie. Donc je parlerai bien sûr de la polymétrie ou de l'isométrie. Il y a quelquefois plusieurs formes versales, quelquefois une seule. Quels sont les accents? Comment varie-t-il? C'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le croit au départ. La rime est présente ou pas? Cela dépend aussi. Il y a des volumes, alors des baisses de ton, des hausses de ton. Et d'autre part, il y a aussi, mais je pense qu'il faut également en parler de manière, essayer d'en parler de manière vivante, ce qu'on appelle les figures de rhétorique. Les figures du poète, sans lesquelles il n'est rien et qu'il manie de manière vitale et vivante. Alors il y a là, vous verrez, enfin des anaphores, hein, bien sûr. Il y a aussi des épiphores, quelquefois des antépiphores. Et pourquoi ? La prosopopée, il l'utilise beaucoup, et bien sûr des métaphores. Alors on se posera aussi la question du lecteur auditeur, du public qui écoute, qui lit, qui écoute la voix. À qui s'adresse le locuteur? À qui s'adresse-t-il? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? On va le voir. Est-ce qu'il parle à des gens? Car cela arrive aussi, à une foule. Et au défunt, à Ignacio lui-même, mais pas tout de suite. Et pourquoi? Alors le moliento, bien sûr, c'est l'idée des pleurs, l'idée des larmes, de la déploration. Ce chant est donc une plainte, il ne faut pas l'oublier, une plainte émise après donc, le décès de ce personnage connu. Alors, est-ce que c'est un planctus? Est-ce que c'est un plagne à la manière des poètes occitans? Est-ce que Jorge Manrique, Las coplas por la muerte de su padre, 15e siècle, n'est pas là, mais on verra comment, avec des déformations, avec des réinventions. N'oublions pas, nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar. Qu'est-ce le mourir? Alors on va revoir tout cela. Est-ce que ces coplas, disons, demeurent plus ou moins dans ce llanto? Comment l'émotion se crée tandis que varient les tonalités du message? Le terrible constat du caractère définitif de toute mort, disons, amène cependant, voilà l'essentiel, amène cependant le poète à formuler ce qu'il tient comme unique recours contre la mort. Unique. C'est le chant poétique. Pero yo te canto. Pero yo te canto. Voilà. La clé se trouve là. On va essayer de voir donc tout cela dans ces quatre mouvements qui sont dans un ordre irrévocable, bien entendu. On ne peut pas changer cet ordre avant le quatrième temps qui est une sorte d'apogée poétique, une sorte d'acmé. Alors, disons pour tous, je repréciserai que Ignacio Sánchez Mejía, c'était un torero très connu, ami des poètes, auteur de 3 pièces de théâtre, compagnon de l'Argentinita, chanteuse et danseuse, Encarnación López Rulbes, à qui est dédié d'ailleurs ce texte, blessé par un taureau dans les arènes de Manzanares, le 11 août 1934, il est transporté d'urgence en raison de la gangrène et meurt le 13 août. Lorca commence à écrire aussitôt, disons, dès l'automne. Il lit le texte chez des amis et le texte est publié en 1935. Alors, disons, il y a longtemps, mais terriblement vivant et présent pour nous. Alors, premier point, la corrida y la muerte, je dirais un locuteur et un cœur. C-H-O-E-U-R, bien sûr, el coro, hein, car il y a un cœur. Alors, quelqu'un prend la parole au premier vers, à la 5 de la tarde. Eran las 5 en punto de la tarde. Un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde. Una espuerta de cal ya prevenida a las 5 de la tarde. Lo demás era muerte y solo muerte a las 5 de la tarde. Voilà le début. Alors, le locuteur restera anonyme d'un bout à l'autre. Quelqu'un. Alors, bien sûr, on dira Lorca a écrit, mais c'est un locuteur, quelqu'un. Une personne majeure, la voix poématique. Mais jusqu'au dernier vers, il restera cet anonyme. Il cite donc l'heure de ce qu'on appellera d'abord le drame. Ce vers est un octosyllabe espagnol. A las 5 de la tarde, 3, 7. Alors, il se reproduit 25 fois dans ce premier temps du lianto. Alors, on se demande au départ si cette octosyllabe n'est pas malgré tout un signe fait au romancé. Au romancé, au romancé qui est octosyllabique. Mais, si nous arrivons jusqu'au bout, il y a à la fin des endécasyllabes. Il n'y aura pas seulement isométrie, il y aura polymétrie. Alors pourquoi? Nous le verrons. Alors, nous regardons immédiatement ce « eran las cinco en punto de la tarde », c'est-à-dire l'endécasyllabe. Et aussitôt après, « a las cinco de la tarde », donc alternance, la voix et le cœur. Il y a une sorte de, disons, de système qui va se maintenir, mais avec des changements. Alors nous allons essayer de voir comment cela est lu. Alors, il y a un locuteur, et je dirais que « a las cinco de la tarde » est prononcé par un cœur. Or, on peut s'interroger, c'est un cœur mystérieux. Il y a « un coro », un cœur évidemment anonyme, qui chante après la voix du locuteur. Alors, dans ce texte, vous le remarquerez aussi, il n'y a pas de rime, aucune rime. Mais il y a malgré tout « a las cinco de la tarde ».« A las cinco de la tarde ». Donc, c'est le cœur qui a une rime, mais pas le locuteur. Le locuteur, dans ses endécasyllabes, n'utilise jamais la rime. Le cœur change-t-il de ton? Selon moi, c'est comme une toile de fond. Il reste plus ou moins le même, tandis que les endécasyllabes ont en somme une sorte de récit du malheur qui est survenu dans l'arène. Le locuteur hausse ou baisse le ton, cela en fonction naturellement des accents internes qui se trouvent dans les vers. Je ne pourrais pas détailler tout cela, mais c'est une vraie joie de pouvoir regarder de près comment sont posés les accents. Un vers, par exemple, tel que celui-ci, y est l'oxydon, sembro, cristal, inique, à la cinco de la tarde. Alors, regardons de près la structure globale de ce premier mouvement. Nous avons donc locuteur et cœur, je l'ai dit, sans qu'il y ait jamais la moindre monotonie. Après la première strophe, qui est un huitain, il y a un espace blanc, puis survient un ensemble de 12 vers, suivi d'un autre espace blanc, qui est le silence, bien entendu, un autre groupe encore de 12 vers, un autre silence, et on remarque qu'après le dernier groupe clé endécasyllabe plus octosyllabe, surgissent à la fin un octosyllabe et un endécasyllabe en italique. Donc il y a, vers le milieu, il y a deux moments importants. Vers le milieu du texte, le passage à la voix du cœur. Donc écrit en italique dans le texte. « A las cinco de la tarde. A las cinco de la tarde. A las cinco en punto de la tarde. » Alors regardez ce vers. « A las cinco en punto de la tarde. » Alors, normalement, ce vers-là n'est pas un endécasyllabe. Si je fais la synalèphe, c'est un décasyllabe. À la cinquième punto de la tarde. Alors, que peut-on dire? Il ne s'agit pas de dire que le poète a fait une irrégularité. Alors, je dirais simplement, à ce moment-là, il me semble qu'il faut maintenir cette idée d'un vers où, à la cinco, il n'y a pas de synalèphe, il y a un hiatus, pour montrer que l'heure est majeure et qu'on ne retiendra que la douleur latente créée par l'heure. Alors après le silence, s'inscrivent à nouveau 20 vers. Donc il n'y a pas, disons, des masses exactement comparables. Cependant, alors regardons les derniers vers, on parvient au dernier vers. On rétablit les caractères romains. Il n'y a plus d'italique, donc c'est le locuteur qui a repris la parole. À la cinco de la tarde, sur un autre ton. Ay, qué terrible cinco de la tarde. Eran las cinco en todos los relojes. Eran las cinco en sombra de la tarde. Alors, que peut-on dire là-dessus? Nous avons effectivement toujours la même heure, à la cinco de la tarde, bien sûr, mais les trois vers suivants sont suivent parfaitement le même rythme, ils ont exactement les mêmes accents. Ce sont trois endécasyllabes, trois phrases exclamatives avec les signes, les points d'exclamation, bien entendu. Et vous remarquerez, ay, que terrible, 5, 1, 4, 6, 10. 1, 4, 6, 10. 1, 4, 6, 10. Un même rythme. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce vers? Qu'est-ce que c'est que ce vers? 1, 4, 6, 10. Je dirais qu'il y a dedans deux vers combinés. Il y a un vers saphique, 4, 6, 10. 4, 6, 10. Et il y a également, à cause de aï et de eran, le premier accent, il y a un endécasyllabe emphatique. Alors, disons, c'est une vraie joie d'aller plus loin. Là, je ne vais pas assez loin, il faudrait aller beaucoup plus loin. Mais il y a là, justement, dans cette même structure versale et accentuelle, en réalité, deux manières de prononcer qui, j'allais dire, se fondent. Voilà le travail du poète. Donc, ici, le poème se clôt par une antépiphore. On avait à la 5 de la tarde, donc en entrée, tout ceci se termine par à la 5 de la tarde. Antépiphore, mais pas vraiment antépiphore, puisque les trois vers en décasyllabes suivent. Donc, vous voyez, certaines modalités sont adoptées, mais réinventées sur le champ. Je suis l'heure quand même de près. Alors, disons qu'ici, je crois, est mis en exergue un drame, mais qui de fait n'est pas raconté. Le drame, ce fut la corrida, c'est-à-dire la mort, la blessure, et la blessure infligée qui a déterminé la mort. Mais en réalité, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce que c'est que ce llanto? C'est le récit de la tragédie. Et qu'est-ce que c'est que la tragédie? C'est en réalité, et c'est essentiel, le pourrissement du corps. Le pourrissement de la plaie, la gangrène, donc bien sûr la mort. Je dirais ce chant n'est pas une épopée. C'est pas le chant de la corrida. Ce chant n'est pas épique. Ignacio n'est pas du tout nommé. Et seuls sont mentionnés, alors deux fois El Toro, bien sûr, bon, figure emblématique, et également la place, la reine, les arènes. Le locuteur donc est un récitant et il y a à côté de lui ce cœur. Alors je dirais ce poème, celui-ci, ce premier poème, est disons une sorte de cérémonie, ce que j'appellerais une cérémonie. Et ce vers à la 5 de la tarde du cœur est une sorte de refrain qui relève peut-être d'une liturgie, point d'interrogation, mais nous ne sommes ni à l'église ni au théâtre. La voix du locuteur est celle, je dirais, d'un témoin, d'un chroniqueur qui cite des actes et surtout qui parle de cette blessure mortelle. Alors de deux façons, je dirais à la fois de manière littérale, car le corps est nommé. Il y a là un muslo, il y a el sudor, il y a la herida, la gangrena, ingles, las heridas, donc le littéral, mais il y a en même temps, dans chacun des casyllabes, avec le littéral, le figuré, car tout est métaphorisé. Vous avez las heridas quemaban como soles. Et tout le reste est ainsi. Il y a très peu d'adjectifs, on le remarquera, très peu. Bon, on ne caractérise pas, on ne décrit pas. Blanca, desolada, solo et verde, c'est tout. Nous sommes, disons, en tragédie et le destin était inscrit dès le départ. Una espuerta de cal ya prevenida. Alors, sur le temps des verbes, je passerai peut-être un peu rapidement car il y a d'autres choses à dire. Alors, j'ai remarqué, bien sûr, il y a trois temps. Il y a l'imparfait, le prétérite et le présent. L'imparfait, temps majoritaire, huit imparfaits, eran, bon, lo demás era, el toro ya mugía, las heridas quemaban, c'est, disons, l'évocation d'un fait passé. Le passé simple, simplement cet passé simple, qui indique le début d'une action, c'est-à-dire la marque de la violence, l'irruption. Comenzaron el óxido sembró, comenzaron los sones, fue llegando, se cubrió. Et il y a également quelques présents, très peu nombreux. Il n'y a que quatre références, quatre reprises simplement. pour intensifier le récit. Il fait exister au présent ce qui est définitivement passé. Le souvenir revient en mémoire, tandis que l'on assiste à une dramatisation des événements, à l'accentuation donc du mal qui détruit ce corps blessé. Alors la lecture rythmique, là, j'avais écrit plusieurs pages, disons, sur les rythmes, je le répète, hein, qui donne, si on analyse cela musicalement, c'est passionnant. Disons que l'on remarquera, une remarque que j'ai faite, c'est que l'octosyllabe accentué 3-7 n'a rien à voir avec l'endécasyllabe 3-6. Il y a forcément un décalage, toujours, entre locuteur et cœur, disons. Je passe là-dessus, enfin, ce sera publié, comme vous faites toujours, vous publiez des choses magnifiques. Il faut voir comment, dans le texte, se succèdent des endécasyllabes emphatiques, parfois des héroïques, parfois des mélodiques. Mais si l'on a un mélodique, cela ne veut pas dire qu'il y ait forcément harmonie, au contraire. Las campanas de Arsénico y de humo comenzaron los sones de Borto. Je passerai maintenant au deuxième poème. Si vous voulez déjà poser des questions, vous le dites. Si vous n'êtes pas du tout d'accord, surtout, vous dites. Ou d'autres idées. C'est là que l'on s'aperçoit quand on relit un texte, je dois le dire, Jocelyne, je pensais entrer là-dedans facilement. C'est inusable. Il y a encore beaucoup à dire. Cela restera vrai. Alors le second, très connu, le sang versé, la sangre derramada. Le sang versé. Alors, c'est-à-dire qu'il y a ici, je dirais, un refus majeur qui se fait à travers des images surréelles et à travers la prosopopée. Car Lorca utilise beaucoup la prosopopée, comme tout poète. Et il ne faut surtout pas dire que c'est démodé. Alors, il y a 93 vers d'une très forte unité thématique. Hein. Le locuteur n'a plus du tout le ton qu'il avait adopté dans le premier temps. Le cœur a disparu. Et le locuteur reste seul en scène. Et pour la première fois, le prénom d'Ignacio apparaît à deux reprises, au début, au vers 4 et au vers 25. Alors, le motif créateur qui est au centre de l'écriture, c'est le sang versé après la blessure. Voilà, le sang versé, qui peu à peu, du fait de la prosopopée, occupe de l'espace. Ça ne va pas être simplement du sang dans du sable. C'est un sang qui, disons, prend des proportions spatiales prodigieuses. Disons que du fait de la prosopopée, apparaît le refus du locuteur de voir et de regarder ce sang. Alors, pour la première et la dernière fois dans le llanto, s'impose la rime. La rime va demeurer. Et elle va demeurer constamment omniprésente d'un bout à l'autre du texte, aussi bien de l'octosyllabe qu'à la fin, disons, de l'endécasyllabe. Alors cette rime, c'est quoi? C'est « et à ». Alors, pourquoi? « Que no quiero verla ». Le texte commence de manière extrêmement abrupte par une exclamation que l'on va voir naturellement se reproduire. Donc ce vers « Que no quiero verla », c'est un hexasyllabe accentué sur 3-5. Vous voyez, il y avait 3-7. 3-6, 3-5. Alors, l'octosyllabe, alors on se demande, voici l'octosyllabe, dile a la luna que venga, que no quiero ver la sangre de Ignacio sobre l'arena. Que no quiero verla. Alors, on se demande s'il y a une trace des coplaces de Manrique. Mais je l'ai dit, les octosyllabes ne restent pas seuls, puisqu'à la fin réapparaît l'endécasyllabe. Alors, regardons, disons, comment se structure globalement ce texte. Alors, les strophes, disons, sont très différentes les unes des autres. Il y a, là, voyez, tercée, quatrain, ensuite des épisodes de 12-13 vers, ou 7 vers, des volumes donc extrêmement différents. Alors, suivons l'itinéraire du locuteur, on entend très fortement sa voix dès le premier vers. La formule est familière, hein? Que no quiero verla, que no quiero verla, comme s'il s'agissait en somme d'une réponse ou d'une explication, après un dialogue qu'on pourrait imaginer, disons, mais qui est ici absent. On entend 5 fois donc ce cri catégorique, vers 1, vers 5, vers 10, vers 14, vers 24, un cri radical. On remarque aussi des vers où apparaît simplement le mot « no », monosyllabe, juste avant le cri au vers 24 « que no quiero verla ».« No, que no quiero verla ». Et à la fin, quand on parvient au bout, les derniers vers, le dernier vers est le suivant, après « no », un vers qui ne comporte que « no », « yo no quiero verla ». Et il y a deux points d'exclamation, avant et après. Ce qui veut dire qu'il faut le crier. Et vous le remarquerez, le « yo » apparaît pour la première fois. Le « moi », donc, de ce locuteur anonyme. On constate quand même ici, alors, qu'il n'y a, bon, il n'y a plus le cœur, mais il y a en réalité des interlocuteurs qui restent anonymes, dont nous ne connaîtrons pas du tout l'identité. Il y a, je dirais, un public. Apparemment, disons, les arènes, la place, hein, Plaza Gris del Sueño, où a été versé le sang. Mais qui sont les gens interpellés? Car le locuteur interpelle ces gens-là. Alors, il les interpelle d'abord pour « dile a la luna que venga », dire à la lune de venir. Pourquoi? Pour cacher le sang. Car maintenant, il s'agit de cacher le sang. Quelquefois aussi, il s'adresse à une deuxième personne, à un « vosotros », vous tous. « Avisad a los jazmines con su blancura pequeña », pour que les fleurs blanches cachent le sang. Il cherche à identifier quelqu'un qui l'a interpellé. « ¿Quién me grita que me asome ?» Il refuse d'intervenir, il refuse de regarder, et au vers 41, il s'adresse à la foule en reprenant exactement les mots du vers 33. « No me digáis que la vea. » Ici s'impose donc le dire, la parole, comme refus définitif donc de ce sang. Mais ceci pourrait conduire finalement à un silence total, à un renoncement du locuteur. Or, ce deuxième mouvement du Llanto est celui qui comprend le plus grand nombre de vers, 93 vers. Cela veut dire que le poète se prévaut du langage, des mots, contre la fuite et le silence, par l'utilisation, bien sûr, de plusieurs procédés. Alors, il se sert, d'abord il refuse tout simplement de boire le sang, il fuit, il détourne le regard, il regarde ailleurs, il regarde vers le dehors, vers la lune, vers les nuages, vers les fleurs. Il imagine les toros déguisando, qu'il déforme en leur attribuant un mouvement et un son. Il mise donc sur l'imaginaire, sur la métamorphose, sur le dépassement de la réalité, sur en somme l'irréalité. Y los toros déguisando, casi muerte y casi piedra, murieron como dos siglos, hartos de pisar la tierra. Et il se réfugie effectivement de plus en plus dans l'imaginaire, puisqu'il évoque maintenant le personnage d'Ignacio remontant les gradins. Nous sommes, disons, en pleine irréalité. Un personnage qui serait en quête de lumière, confronté à son propre sang, qui donne lieu à de nouvelles images matérielles avec le mot « chorro », le « G », hein, qui est deux fois mentionné, un flot de sang qui, en somme, se répandrait sur la foule. Irréalité, matérialité sont associées ici pour donner au sang, j'allais dire, une intense existence poétique. Il faut d'abord faire exister le sang. Après cette vision se place une ellipse et on change alors complètement de perspective, puisque l'image du sang disparaît pour livrer soudain passage au souvenir du combat du torero vivant de Vert. No se cerraron sus ojos cuando vio los cuernos cerca. En somme, la mort n'est plus notifiée et on sait simplement que le malheur a eu lieu et que des voix ont fait appel à la constellation du taureau. Un espace blanc succède à cette projection qui est faite dans le cosmos et qui permet maintenant au lecteur de composer un éloge vibrant d'Ignacio, mais vivant, tel qu'il fut en vie. Une strophe de 20 vers célèbre le courage, l'intelligence, la beauté du torero. On en est ici près de, j'allais dire, de l'hyperbole, tant et grand de la perfection évoquée. Les négations servent à dire que le personnage fut incomparable et deux allusions sont faites aussi à sa province et à la ville du Torero. No hubo príncipe en Sevilla. et Aire de Roma Andaluza. 8 vers exclamatifs, dont 7 introduits par l'anaphore que, mettent en évidence le torero, que grand torero en la plaza, que buen serrano en la sierra, que blando con las espigas. Et vous remarquerez que tous ces vers sont accentués de la même façon, 2-4-7, 2-4-7, puis 2-7, 2-7, et à la fin simplement 3-7. Une musique accentuelle qui reste, disons, à peu près constante dans l'éloge. 8 vers exclamatifs, donc. Donc, le sang a été ici oublié, et la célébration est celle, finalement, du vivant. J'allais dire, tout Plinctus comporte habituellement un éloge du défunt. Mais ce deuxième mouvement ne s'achève pas là-dessus, car on assiste, au contraire, à une volte-face du locuteur. Car après un espace blanc qui crée le silence, commence ce que j'appellerai la strophe finale, 25 vers, octosyllabes et soudain en décasyllabes, qui vont alterner, mais pour aboutir à quoi ? À la reprise du refus de voir le sang. Alors j'allais dire, arbitrairement, le locuteur qui s'exaltait en célébrant Ignacio change de ton pour évoquer soudain quoi ? Le spectacle d'un mort qui se décompose et pourrit. Pero ya duerme sin fin. Ya los musgos y la hierba abren con dedos seguros la flor de su calavera. Alors disons qu'il y a là une volonté de frapper, choquer sans doute, tout en disant, disons, la vérité. Il y a là, je dirais, du réalisme, une sorte de végétalisation d'un crâne. Mais cette phrase qui occupe les trois vers de ce quatrain octosyllabique renvoie à une étape postérieure de cette tragédie, c'est-à-dire après la mort. Nous allons nous retrouver maintenant après la mort, alors que le premier mouvement évoquait la gangrène qui atteignait le torero vivant. On pourrait parler, disons, d'anachronisme ou de confusion temporelle, mais le locuteur retourne alors, grâce à la prosopopée, uniquement à elle, à ce sang dont il a sans cesse refusé la vue, et qui devient ici alors un espace. Il y a un espace sans, qui chante, il y a l'idée du mot chanter, et qui finit par créer une sorte d'espace inédit, una lengua, comme il dit d'abord, et ensuite une mare, un charco. Et où aboutit ce charco ? Il s'arrête près du fleuve, junto al Guadalquivir de las Estrellas. Alors cette vision, cette projection imaginaire n'est pas étrangère, je dirais, à l'image de Manrique. Il y a quand même le rio, il y a le fleuve. Chez qui, nuestras vidas son los ríos. Mais ici, il faut le reconnaître, dans les coplas, les fleuves se jettent dans la mer, qui est par métaphore, elle mourir. Tandis qu'ici, l'orca fait s'arrêter le sang près du fleuve, où se reflètent les étoiles, ce qui signifie que le charco de agonía est étranger à ce fleuve, à ce Guadalquivir, où se projettent perpétuellement, j'allais dire, les étoiles de l'espace céleste. Le sang n'a donc plus d'avenir, le sang d'Ignacio n'a plus d'avenir, et les trois adjectifs, larga, oscura, triste, confirment la tristesse de l'immobilisation. Le locuteur adopte alors à nouveau, mais dans quatre vers seulement, l'octosyllabe, qu'il faudrait commenter longuement. Ô blanco muro d'Espagne, ô negro toro de pena, ô sangre dura de Ignacio, ô ruiseñor de sus venas. Alors, il faudrait reprendre, je n'insiste pas parce qu'on n'a pas le temps. Ces vers ont également le même rythme, 2, 4, 7, 2, 4, 7, 2, 4, 7, 4, 7. Il faudrait parler du blanco muro d'Espagne. Ils ont une vision totale, en somme, de la blancheur, j'allais dire, de l'Espagne. Alors moi, je ne parlerai pas de prémonition, comme beaucoup de commentateurs le font. Je ne dirai pas ça. Mais il y a une sorte de... ensuite apparaît le toro, bien sûr, ensuite Ignacio, et ensuite le ruiseñor de sus venas, c'était le sang vivant qui chantait. Mais un blanco muro d'Espagne mériterait un travail beaucoup plus poussé, bien sûr. Alors, le locuteur comprend qu'il n'y a donc aucune possibilité de faire disparaître ce sang, et d'où la fin que no hay cáliz que la contenga, que no hay golondrinas que se la beban, no hay escarcha de luz que la enfríe, no hay canto ni diluvio de azucenas, no hay cristal que la cubra de plata. Alors, ces vers ne sont pas tous des endécasyllabes. Il y a là un énéasyllabe, il y a ensuite un décasyllabe et à nouveau un décasyllabe. Disons qu'ils ont presque le même espace, mais il y a quand même là une sorte de polymétrie avec des variations accentuelles tout à fait intéressantes et à commenter, perceptibles dans ces vers et qui disent, selon moi, le désarroi final du locuteur, qui est passé du refus de voir le sang à la certitude que ce sang ne disparaîtra pas. Donc le deuxième temps s'achève sur une impasse. Ce qui explique le recours pour le troisième temps à une autre forme, disons, de vers dans Cuerpo Presente, puisque nous allons passer à l'Alejandrino. Et là, nous n'aurons plus la moindre allusion au sang, mais nous aurons le corps du torero mort. Cuerpo Presente, alors je dirais, c'est le règne de l'Alejandrino. L'Alejandrino qui est le grand vers d'Arillo, disons, le grand vers moderne, le vers qui occupe un vaste espace et qui occupe effectivement ses quatrains. Alors, donc il y a l'Alejandrino, l'Alexandrin, et le texte comporte, alors le texte se compose de trois quatrains initiaux, puis il y a un espace blanc, un silence, trois quatrains, et soudain, un quintile, qui est là au milieu, qui joue un rôle bien entendu, puis cinq quatrains, ensuite, donc 49 vers. Aucune rime dans ce texte, aucune. Le poète n'a pas besoin de rime à ce moment-là. Ce qui va, je dirais, dans le sens d'une libération du signifiant sonore, sans doute. Or, je ne vous parle pas des quatrains qui ne respectent absolument pas l'accentuation habituelle de ce qu'on appelle quartetos, serventesios ou quadernabia. Il y a des variations d'accent stupéfiantes dans ce texte. Et les hémistiches sont toujours accentuées de manière dissymétrique. Toujours. Là aussi, enfin, je ne vous dirai pas tout ce que j'avais noté. On va donc, alors ici, disons, dans ce texte, en gros, on va passer du corps immobile d'Ignacio, il est là, immobile, le corps, on va passer à l'idée d'une totale disparition, et même à un désir de totale disparition. Il s'agit donc d'un langage qui est à la fois haletant et désespéré. Alors disons qu'il y a un motif inattendu qui s'impose ici et qui peut s'expliquer, une sorte d'obsession, celui de la pierre, la piedra. Il y a soudain la piedra. Alors on dira, la pierre c'est forcément la durée, ce qui ne meurt pas, disons symboliquement. Mais disons, nous allons voir ici sa négativité. Apparemment, on peut dire qu'Ignacio est sur une pierre. Il est exposé, en somme, sur une pierre. Ya está sobre la piedra, Ignacio el bien nacido. On peut imaginer cela, une sorte de spectacle magnifique face au public. Mais la piedra est négative. Es una frente donde los sueños gimen. Es una espalda para llevar al tiempo. Et porque la piedra coge cimientos nublados. Donc la pierre en réalité est un élément négatif. Il ne s'agit plus ici, je vous l'ai dit, de regarder le sang, mais de regarder le corps. Alors j'insiste beaucoup sur le mot piedra, parce qu'on va avoir affaire ensuite à un autre mot qui est le mot pierda, par paranomas, l'idée de la perte. Car en réalité, il faut que le mort se perde, qu'il disparaisse. Alors, le locuteur signale la pesanteur du silence qui règne face à ce corps. Nous sommes donc là, face à ce corps. Mais il y a un public anonyme. À nouveau, ce n'est pas le même que dans le chant précédent. Le locuteur est le seul à le désigner. Il parle à la deuxième personne du pluriel, « contemplat su figura ». Il invite donc au regard, la contemplation. Parfois, il dit aussi, il parle à la première personne du pluriel. Nous tous, estamos, con un cuerpo presente que se esfuma, con una forma clara que tuvo ruiseñores, y la vemos llenarse de agujeros sin fondo. Il s'interroge sur ce qui est fait, sur ce qui est dit. Il dit même « Que pasa ?» Et il dit « Que dicen ?» Quien arruga el sudario ? No es verdad lo que dice. Le locuteur regarde en somme l'assemblée et constate son atonie, son impuissance, j'allais dire son inexistence. Il est donc à nouveau, le locuteur est parvenu au fond, au bout d'un autre discours, ce qu'il n'a cessé de faire depuis le début. Ce dont témoigne l'abondance de termes tels que « no » ou « ni ». On est dans la négation. « Que no quiero más que los ojos redondos para ver ese cuerpo sin posible descanso. » Ceci justifie le recours à la volonté et à l'appel de tous les hommes bien vivants, liés au monde des chevaux et sans doute de la tauromachie du monde d'Ignacio. Ces gens sont maintenant convoqués parce qu'ils sont vivants. Aquí quiero yo verlos, delante de la piedra. Alors qu'attend le locuteur de ce monde très extérieur? L'anaphore yo quiero que me enseñen nous éclaire sur cette demande. Il s'agit de savoir comment faire pour emmener le corps d'Ignacio vers sa totale disparition, vers la sortie, la salida. Il faut donc apprendre à composer un llanto como un río. Il faut composer une déploration comme un fleuve. Ce qui nous ramène encore à Manrique. Mais celui-ci définissait la vie comme un fleuve. Tandis que Lorca compare le llanto, le chant funèbre, au fleuve. Ce départ donc, irréel, imaginaire bien entendu, est en réalité une perte vers un ailleurs qui peut être alors peut-être la lune, l'eau, les broussailles. Et on passe ici de la piedra mentionnée dans la neuvième strophe au verbe pierda par paronomase à trois reprises. Para llevar el cuerpo de Ignacio y que se pierda en la plaza redonda de la luna, que se pierda en la noche sin canto de los peces. Il ne saurait y avoir, disons, d'étape ultérieure, puisqu'il est question d'une disparition définitive, voulue par le locuteur endeuillé. Seul restait l'interpellation, pour la première fois, d'Ignacio, qui est ici tutoyé, bien entendu, par le biais de cinq verbes conjugués très brutalement à l'impératif. Quatre d'entre eux enjoignent un mouvement, et le cinquième est utilisé au négatif pour fuir résolument la vie encore audible. Vete, Ignacio. No sientas el caliente bramido. Duerme. Vuela. Reposa. También se muere el mar. Alors, il y a à nouveau la mer. La mer es el morir de Manrique. Il me semble qu'ici, la mer est différente. Il me semble que l'on dépasse la métaphore de Manrique pour devenir, mais toujours par la prosopopée, une hyperbole, un paradoxe absurde, mais qui magnifie la mort d'Ignacio et qui en fait en somme un événement d'ordre cosmique. D'où le fait que l'on passe au dernier temps, le temps bref, 25 vers, le chant du poète contre l'oubli définitif. Il y a, disons, entre cuerpo presente et alma ausente, il y a un silence, il faut un silence, qui est une ellipse. Si dans le chant 3, le locuteur a souhaité la disparition d'Ignacio, en revanche, le chant 4 implique que le torero a définitivement disparu. Il n'est plus. No te conoce el toro, ni la higuera, ni caballos, ni hormigas de tu casa. No te conoce el niño, ni la tarde, porque te has muerto para siempre. Alors, qu'est ce chant? Comment s'est produit ce grand effacement? Il y a ici une sorte d'enjeu décisif, hein, que met en exergue, bien sûr, ce poème, le plus bref des quatre, par nécessité. Le texte évoque l'annulation définitive. Alors, je ne dirais pas de Alma, il faudrait écrire aussi beaucoup plus longuement sur Alma, âme. Il n'y aura ni résurrection ni au-delà. Hein. C'est clair ici. Alma, c'est, disons, l'être. mais il a mis Alma Husset, ces lettres, qui semblent désormais dans l'oubli, mais le locuteur va parvenir au chant. Alors regardons la structure de ce texte qui est bipartite, disons. Il y a ici, bien sûr, l'endécasyllabe, mais on revient encore à l'alejandrino à la fin. Victoire de l'alejandrino. Alors, quatre quatrains d'abord. Chacune des strophes comporte trois vers endécasyllabes et le quatrième qui est un énéasyllabe, porque te has muerto para siempre. Et qui est, j'allais dire, l'épiphore, le refrain, si l'on veut. Porque te has muerto para siempre. Il s'agit de répéter ce qui est inexorable. Donc tu es mort à jamais ou pour toujours. Et après ces quatre quatrains, donc, il y aura cette reconquête du langage. Ce poème ne comporte aucune rime. La parole poétique se fonde phoniquement sur les premiers mots des vers qui sont essentiels. No te conoce, no te conoce. Ce qui l'emporte, c'est la répétition donc de ces premiers mots. Les figures de rhétorique sont fondatrices ici et participent à l'élaboration d'un chant de deuil qui va précéder la réponse. Le locuteur est anonyme dans les quatre premiers quatrains. Nous ne constatons au début aucune présence du moi, pas de yo. En revanche, disons dans ces quatrains, sont privilégiés les pronoms de la deuxième personne. No te conoce, no te conoce, te has muerto, tu casa. Il y a une présence dans l'absence, grâce à ces 12 formes. Dans le premier quatrain, dans le deuxième, 5 occurrences, no te conoce. Dans le troisième, 2 occurrences, et enfin une occurrence. Le locuteur s'engage dans une prosopopée sans concession, implacable, qui se présente comme une terrible vérité que rien ne peut contrecarrer. Il s'agit de dire à l'absent qu'il a sombré dans l'oubli définitif et que plus rien ni personne ne se souvient de lui. Alors, animaux, enfants, pierres, il n'y a là aucune monotonie, même si le refrain proclame que la mort est définitive et que l'être du défunt a totalement disparu. L'épiphore, porque te has muerto para siempre, devient anaphore dans le quatrième quatrain. Et alors le quatrième quatrain est particulièrement impressionnant. Pourquoi? Porque te has muerto para siempre, como todos los muertos de la tierra, como todos los muertos que se olvidan en un montón de perros apagados. Alors là, il y a une sorte, j'allais dire, de vérité universelle qui nous est offerte. Tous les morts sont oubliés et le dernier vers du quatrain est une métaphore impressionnante puisque les morts deviennent en somme un montón de perros apagados. Là encore, il faudrait développer, bien sûr. La cruauté de l'oubli, le passage du cas individuel à l'animalisation témoigne d'une absence totale, alors il me semble, de transcendance. Pas de résurrection, et je dis pas de transcendance, pas d'au-delà. Une vision pessimiste, douloureuse, sans aucun pathos et sans aucune sensiblerie. Il n'y a aucun remède à l'oubli, d'où, alors nous sommes parvenus au bout du discours, d'où l'espace blanc qui précède le quintile, un quintile et un quatrain, écrit en alejandrinos, et où enfin le poète, le moi, disons, devient le chantre du disparu. No te conoce nadie. No. Pero yo te canto. Alors ce vers là aussi serait à commenter. Le premier hémistiche reprend l'anaphore présente dans les quatrains, ainsi que le mot nadie, personne, hein, issu du troisième quatrain, pourrait faire une sorte de résumé indéniable de ce qui vient d'être dit. No. Le monosyllabe qui appartient au deuxième hémistiche et qui est destiné à mettre en valeur, bien entendu, le mot clé. Pero, no, pero, yo te canto, pero yo te canto. Alors il y a ici un locuteur qui parle à la première personne et qui va dire à la fin, yo canto, deuxième vers, yo canto para luego tu perfil y tu gracia, et avant-dernier vers, yo canto su elegancia con palabras que rimen. C'est-à-dire qu'il assume la tâche, disons, d'un poète lyrique, d'un écrivain lyrique. Et là, ressurgissent, alors on remarquera, des possessifs. Il n'y a pas de pronom complément, il y a des possessifs, comme si, à travers cette parole, se recréait Ignacio. Io canto para luego tu perfil y tu gracia, tu conocimiento, tu apetencia, tu valiente alegría. Le locuteur parle ensuite d'Ignacio à la troisième personne, pour le singulariser. Hein, un andaluz tan claro, tan rico de aventura. Et les deux derniers vers, en somme, contiennent une réaffirmation d'un moi qui chante, qui utilise un langage, des mots qui gémissent, dit-il. Hein, yo canto su elegancia con palabras que gimen. Il utilise les mots. Il y a ici le mot palabras. On remarque que les mots poesia et poeta ne sont pas prononcés. Il s'agit, ne se consacre donc à ce llanto, à des mots qui émettent des sonorités humaines, non éclatantes, harmonieuses, j'allais dire élégiaques. Et ce tout dernier vers, il recuerdo una brisa triste por los olivos, qui, vous le remarquerez, il n'y a pas de césure, il n'y a qu'une seule parole, disons, un seul langage dans cet Alejandrino qui ne se divisera pas en hémistiche. On a ici une sorte d'unité finale qui suggère l'acte de se souvenir, disons, chez le locuteur et qui nous donne un paysage, je dirais, andalou, sans lien avec aucune anecdote précise, des oliviers qui, eux, incarnent la durée. Et la brisa triste, le passage, je dirais, l'air volatile qui symbolise la fugacité de la vie. C'est ainsi que se termine donc ce llanto. Il y aurait, alors j'avais mené une étude sur les, disons, les sons, les articulations consonantiques. On remarquera qu'elles circulent d'un bout à l'autre. En particulier, il y a muerto, piedra, recuerdo, vendrá, muerto, muerte, tristeza, jusqu'à la fin. C'est une recomposition totale, disons, à partir de ces sons. Je conclurai, mais enfin, c'est tout à fait, disons, ponctuel. On a vu ici l'utilisation extraordinaire, disons, de l'octosyllabe, de l'endécasyllabe, de l'alejandrino, disons, qui traduisent à la fois effroi, douleur, on a vu rage, impuissance, désolation, puis affirmation du chant. Alors, je dirais pour le corps et l'âme, je reprends, il faut utiliser un cuerpo et alma, du défunt, il n'y aura, je le répète, ni résurrection ni métampsychose. Seul demeure au présent de l'indicatif, le locuteur qui chante a disparu. Yo te canto. Je vous remercie de votre attention.
Je vous remercie, Madame Zimmermann, pour un moment très fort. J'ai rarement eu l'occasion d'écouter une explication aussi habitée. Vous donnez de la chair aux figures de rhétorique que vous utilisez avec une habileté absolument confondante. Je suis presque sans voix parce que c'est difficile, au fond, quand on a eu une explication d'une telle finesse, de poser des questions. On a l'impression d'être malhabile, maladroit, tant votre propos allait dans des nuances infinies. J'aurais juste une toute petite réaction, et puis après, je pense que mes collègues qui sont experts en poésie espagnole pourront aller beaucoup plus loin. En vous écoutant, je me disais, est-ce que ce poème est destiné à une expérience de lecture solitaire, ou est-ce qu'il y a dans ce poème un potentiel dramaturgique, potentiel opératique? Vous nous avez tellement donné à entendre et à voir aussi à travers toutes les images que vous avez su faire naître dans votre propos, que je me disais que ce poème supporterait sans doute assez mal simplement l'expérience d'une lecture solitaire, ou en tout cas qu'on passerait à côté de tant de choses que vous avez pu nous dire.
Je suis absolument d'accord avec ce que vous dites. Disons, on rêve d'une, alors je n'ose dire mise en scène ou opéra, et avec mise en valeur des sons et des voix. Je pense, est-ce que cela peut se faire? Est-ce que cela s'est fait? Je n'imagine pas une lecture solitaire. Il faut un public, enfin le public est d'ailleurs latent, on l'a vu, il est là. Je pense qu'il faudrait que ce soit fait. No sé si está de acuerdo. Alors c'est difficile. Ce ne serait pas seul, alors à la fois théâtre, enfin scène, mise en scène, opéra, chant quand même. Pero yo te canto, c'est chant. Comment cela pourrait se faire, Jocelyne? Ne pourrait-on imaginer? Qu'en penses-tu?
Comme un tombeau au sens musical, oui. Du terme et poétique.
Voilà.
Il y a eu le tombeau sur ce tombeau d'ailleurs, sur la musique contemporaine. Donc, je pense que ce serait ça peut-être, voilà. Un tombeau, oui. Avec musique entre.
À la fois parole et chant.
Parole et chant.
Parole et chant.
Enfin, je pense à tombeau parce qu'il y a eu le tombeau, la mort. Oui.
Bien sûr.
Maurice
Oana. Maurice Oana,
oui.
Vous avez
une danse qui commence.
Oui.
On n'entend pas très bien.
Non.
On n'entend pas très bien, mais.
Tu dis que si on va mettre en scène pour faire quelque chose dans le domaine de la représentation, la danse du taureau, c'est évident.
La danse du taureau.
Oui.
La danse.
Là, j'attends, là, notre ami a certainement des idées là-dessus. Notre ami qui vient du Brésil, qui a fait des choses magnifiques.
Un détail, tu as parlé d'un espace blanc.
Oui.
C'est un espace topographique.
Oui, topographique, hein, excuse-moi, bien sûr, bien sûr. Il y a des moments qui coïncident, bien sûr, avec des silences plus ou moins longs.
Oui. Ça m'a rappelé, comme j'ai revu dans le volume qui avait été publié en 98, là, Marie Lafranc avait laissé, justement au début de son texte, un espace blanc.
Oui.
Un effet remarquable avec une économie de moyens admirable.
Bien sûr, mais je te suis tout à fait quand tu parles de Marie Lafranc.
Oui.
Vraiment.
Non, mais
il faut, il faut lire, lire et relire Marie Lafranc. Il y a des travaux, disons, du passé, enfin, assez lointains, ça remonte, disons, à un certain temps déjà, mais qui restent absolument vivants et qu'il faut, disons, consulter.
Les dames Manriquez, c'est le mar ou la mar? Nuestras vidas son los ríos que van a dar.
C'est la mar. C'est la mar. Oui, bien sûr. Bien sûr, la mar.
Tu as dû y penser.
Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a des, comme ça, je pense, de temps à autre, des arrière-plans, mais aussitôt quittés, me semble-t-il. Et Banadar et la mare.
Même chez Mingui, on trouve cela. Dans Le vieil homme et la mer, il y a une réflexion sur le mar et la mare.
Ah, tiens, je les oubliais. Ah bon, à signaler, je regarderai. Je laisse.
Non, moi, juste une remarque, parce que ce qui m'a frappé, parce que c'est tellement beau ce que tu as dit, est tellement fort que c'est vrai que ça fait ressortir le poème encore plus.
C'est le poème qui parle, je n'ai aucun mérite là-dedans, c'est lui qui parle. Il suffit de lire. Ça, vraiment, je le crois fermement.
Mais il me fait parler aussi, ce texte. Non, ce qui m'a frappé dans ce que tu as expliqué en particulier sur les rimes, etc., c'est la solitude absolue, de la voix contre tout le reste. C'est la solitude absolue.
Absolument.
De la voix.
C'est ça.
Enfin, ça m'a frappé en t'écoutant.
C'est ça. Rien ne l'aide. Il n'y a aucun recours. Il tente plusieurs fois d'avoir recours à toutes sortes de solutions, et rien.
Cœur, etc. Mais c'est la solitude absolue et définitive
du locuteur. Donc face à la mort. Car là. Il y a, disons que surtout le dernier poème, le quatrième temps, apparaît comme une sorte de vérité, j'allais dire, universelle. Nous tous sommes concernés. Il faut le dire. J'allais dire la fin du liant. Enfin, mais disons, pour le locuteur, rien d'autre. D'où ces terribles notes connoncées. Ce n'est pas cruel de la part du locuteur, c'est cruel de la part, disons, de la mort, de ce qui est mort.
C'est le recours, je peux en parler parce que Sonia va parler de Poète à New York, c'est le recours aussi dans le poème de Poète à New York,
Non
me conocieron.
Voilà.
C'est ça.
Je vais lui laisser la place, qu'elle vienne.
Peut-être qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions.
Non, il faut maintenant qu'intervienne notre ami.
De toute façon, les échanges vont pouvoir se poursuivre. Nous aurons encore peut-être le privilège de pouvoir nous entretenir avec vous au cours de cette conférence.
C'est notre
en tout cas, je pense qu'on peut à nouveau applaudir Mme Zimmermann pour cette très belle communication.